Catherine le matin jusqu'à 9h30. Vous écoutez. Que l'amour ici se lève. Voici Catherine Gaudreau.
Je dis ça parce que ce soit à Trois-Rivières, Mauricie, le centre du Québec, tout à l'heure, on me dit qu'à Victoriaville, on est plus sévère, que les gens seraient plus disciplinés. J'ai eu deux textos là-dessus. Alain qui nous a écrit, Guillaume aussi. Mais moi, dans ma région d'origine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est pas bien mieux qu'à Trois-Rivières. Salut, Éric.
Bonjour, Catherine.
À Québec, êtes-vous de meilleurs conducteurs que nous autres, coudonc?
Ben, je pense pas, non. Non, honnêtement,
hein?
Là.
On n'est pas bien bon.
Les piétons, c'est pas la priorité. J'avoue qu'on n'est pas bien bon avec ça.
Mais ça va prendre quoi pour qu'on comprenne? C'est drôle, on dirait qu'ailleurs au Canada, ils ont compris ça, puis nous autres, on comprend pas.
Je sais pas. Je sais pas si c'est pourquoi on est plus frustrés sur la route. Je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi on a ce comportement-là, mais c'est quasiment culturel. Puis, mais je sais qu'il y a une affaire aussi qui m'a toujours dérangé à Québec. Tu sais.
Ouais.
J'ai vécu une partie de ma vie à Montréal.
Oui.
À Montréal, là, les piétons, on a le droit de traverser pendant que les autos passent aussi. Là. C'est quand quand dans ta direction, les autos peuvent avancer, le piéton peut aussi passer quand la lumière est verte. À Québec, nous autres, ça dépend de combien de secondes, dépendamment du coin de rue, là, mais il faut que les quatre lumières soient rouges en même temps, puis que là, il y a les piétons qui allument, puis que tu peux passer. Là.
Ah oui?
Et ça fait perdre beaucoup plus de temps aux automobilistes. J'ai toujours trouvé ce système-là assez bizarre. Je me suis tellement habitué à Québec, je suis toujours frustré de voir qu'on... On peut pas faire passer les piétons en même temps que les autos. Là.
OK, oui. Mais je pense qu'à certaines intersections, à Trois-Rivières puis en Mauricie, je pense qu'il y a des endroits que c'est la même chose. Puis c'est sûr que ça crée de l'impatience. Là, tu vas me dire pourquoi personne n'avance. Là. Mais on a peut-être une partie de la réponse. On peut-tu parler un peu de commission scolaire? Parce que là, ce matin, on nous dévoile ce dossier-là, Journal de Montréal. Donc, un rapport qui a été remis cette semaine au ministre de l'Éducation. Et ça concerne la commission scolaire English Montreal. On nous en dit pas tant que ça. Visiblement, le rapport est accablant. On parle d'un organisme dysfonctionnel, manque de maturité, l'un des pires cas de gouvernance que l'on puisse imaginer. Ça va donner comme résultat qu'à partir de 2020, du printemps 2020, c'est quoi les commissions scolaires, les commissaires? Bonsoir. Mais Éric, je te pose la question. Une fois qu'on a dit ça, on les remplace par qui? Qui va gérer les commissions? Il n'y en aura plus pantoute de commissions scolaires?
On va faire comme partout ailleurs sur le continent. Ça va être les directions d'école qui vont être imputables.
Okay.
Puis quand il va y avoir des services en commun, mais ça va être mis en commun, ou par soit les villes, ou soit. Mais il n'y aura plus d'organismes là, par-dessus les écoles qui dédoublent ce que les directions d'école font ou ce que les villes font. Écoute, c'est pas nouveau. Il ne faudrait pas être surpris que la CAQ ait cette position-là. Ça fait des années qu'ils disent ça. Même l'ADQ avant a toujours dit ça. Se battait pour l'abolition des commissions scolaires. Puis là, la CAQ va aller de l'avant. Mais c'est sûr que là, ça leur donne une légitimité politique quand un rapport qui est accablant sur la mauvaise gestion. Puis là, on parle de la commission scolaire anglophone à Montréal. Et on parle que c'est étendu à bien d'autres commissions scolaires ailleurs au Québec. Puis à quelque part, là, moi, je pense que les gens qui nous écoutent, ils sont scandalisés, là. Posez-vous la question, de vous aller voter aux élections scolaires, vous autres? Parce qu'il y a au-dessus de 95% du monde qui ne sont pas allés la dernière fois qu'on a tenu. Philippe Couillard, il les a retardés la dernière fois parce qu'il avait peur que ça soit encore plus bas. Donc, je pense que les commissions scolaires ont déjà été abolies dans nos têtes.
Ouais.
Dans le sens où quand on est plus foutu de se lever puis d'aller voter parce que ça ne nous dit plus rien puis qu'on trouve ça insignifiant puis pas important, ben, je pense qu'on les a abolis.
Ben,
le 95,4% du monde qui sont pas allés voter, là, ben, ils ont décidé que les commissions scolaires étaient finies.
Ben, écoute, tu regardes les chiffres, Éric, ça parle. Là. C'est 4,9% le taux de participation chez les francophones en 2014. Visiblement, les anglophones, ça semble les intéresser un peu plus. Mais je te pose la question. En tout cas, moi, là, je suis jamais allé voter à des élections scolaires, Éric.
Ben, non.
Toi non plus?
Écoute, moi, je suis jamais allé voter. Puis il y a 44%. Non seulement le monde ne va pas voter où il y a des élections, mais en plus, tu as 47% des commissaires qui sont élus parce qu'ils n'ont pas d'opposition.
Ben oui.
Fait qu'il y en a presque un sur deux qui se fait élire parce qu'il n'y a pas personne qui veut se présenter contre lui. Fait que, Puis, t'es déjà allé me passer une soirée? Moi, je suis jamais allé voter, mais je suis déjà allé passer une soirée dans une commission scolaire à regarder une réunion.
Oui, je suis déjà allé.
Dire en affaire que ça volait pas très haut. Et il y a du monde qui font de la petite politique là-dedans. Il y avait des beaux buffets. Puis quand on regarde aussi la façon dont ils ont géré puis ont dépensé l'argent, tu te dis, est-ce que c'est vraiment, vraiment nécessaire? Est-ce qu'il fallait politiser la gestion de nos écoles de cette façon-là? Est-ce que les directeurs d'école sont trop incompétents pour être capables de faire déneiger la cour arrière l'hiver puis pour tondre le gazon l'été puis pour s'occuper des services communs puis de se coordonner avec les écoles d'à côté? Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une bureaucratie qu'on a mis en place. Il y a une raison pourquoi c'est pas imité ailleurs sur le continent.
Non.
Ça marche pas.
Mais Éric, je te pose la question. Le 8,9 milliards, le budget annuel des commissions scolaires, une fois qu'on enlève ça, là, on le répartit de quelle façon? Tu penses-tu que ça peut faire un peu de chialage? Parce que là, OK, les directions c'est d'école sûr. Vont gérer ça, mais là, qui en reçoit plus puis, versus les besoins? Il me semble que ça risque de chicaner un peu.
C'est sûr et certain qu'il va y avoir de la bouette. Là. Tu ne fais pas d'omelette sans casser deux. C'est certain que d'abord, la Fédération des commissions scolaires du Québec va être hystérique. Là,
ben oui,
ça
ne
sera pas la première ni la dernière fois. Là. Parce que eux autres, c'est leur arrêt de mort. Là. Faut pas tout, là. Donc, c'est sûr qu'eux vont crier. D'ailleurs, tu as vu, ils ont même engagé une firme de lobby et de relations publiques pour gérer leur crise puis essayer de contrecarrer le gouvernement. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ils prennent l'argent de vos taxes pour combattre le gouvernement qui est démocratiquement élu puis qui a promis qu'il allait les abolir. Pense-y, là.
Ah oui.
C'est fou, là. Alors là, eux autres, ils vont se battre avec l'énergie du désespoir. Fait que c'est sûr que ça va crier tout à l'heure. C'est sûr que ça va prendre une coordination. Tu sais, il y a des régions, puis il y a des commissions scolaires ou des écoles où ça va, c'est de l'ordre des évidences, ça va se faire très facilement. Mais il y en a d'autres où ça risque. Tu sais, chaque région a ses particularités, là, puis là, chaque commission scolaire avait ses façons de faire. Donc, évidemment, que ça va être du cas par cas, puis ça va être beaucoup de municipes, puis il va y avoir beaucoup de gens comme toi, comme moi, comme plein d'autres, puis à juste titre, là, parce que quand il y a un changement, on observe plus ça. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont regarder ça, puis à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, on va blâmer la disparition des commissions scolaires. Mais je pense que dans l'ensemble, pour l'intérêt public, pas convaincu qu'on va perdre au change. Au contraire,
moi,
je pense qu'on va faire des économies d'échelle. Puis plus on ramène l'argent proche de l'élève, mieux c'est.
Ah, ça, c'est clair. Hey, Éric, t'en penses quoi, le premier débat en anglais hier, Justin Trudeau? De toute façon, il l'avait annoncé, là, il en faisait 3 sur 5. Mais tu sais, Justin Trudeau n'est pas là. Comment tu vois ça?
Je pense qu'il a perdu la deuxième journée de la campagne.
Ah, aussi?
Écoute, c'était évident. Je veux dire, le jour où tu décides que la dernière élection, il y a eu 5 débats, puis tu es allé aux 5, cette élection-ci, tu dis oui juste à 3 sur les 5, bien, c'est évident que les 2 débats où tu es le seul qui n'est pas là, puis qu'on voit un trône vide avec ton nom dessus, puis que tous les autres chefs débattent, mais c'est sûr qu'ils ont passé la soirée à casser du
studio,
à dire qu'il n'est pas là pour les Canadiens, puis il n'est pas là quand c'est le temps, puis il n'est pas là pour défendre son bilan parce que c'est pas défendable, puis on connaît ça déjà, toutes les lignes.
Ben, les absents toujours tard, Éric.
C'est ça. Fait que là, Justin Trudeau, il s'est ramassé dans la position du bad cop. Je sais pas comment il s'est fait conseiller, mais il disait qu'il était trop occupé pour parler aux Canadiens. Il y avait une assemblée partisane à Edmonton où il ne pourra probablement pas élire un seul député de toute façon dans cette région-là. Il voulait être n'importe où, sauf à Toronto, où se tenait le débat. Puis en plus, c'est un débat qui est organisé par McLean, là, la revue,
ouais.
la principale revue canadienne-anglaise, animée par Paul Wells, un commentateur politique qui est un des plus respectés sur la colline à Ottawa. Fait que c'est sûr que Justin Trudeau, là, comme deuxième journée, c'est pas très bon pour lui. Au Québec, ça n'aura pas beaucoup d'impact parce qu'au Québec, il participe aux débats français.
Ouais, c'est ça.
Nous autres, il va l'avoir, le débat officiel, plus le débat, le face-à-face de TVA, il va les faire. Fait que nous autres, on verra pas ça en français, des débats où Trudeau se défile. Mais au Canada anglais, surtout dans la région de l'Ontario, c'est vraiment pas bon pour lui. Là. C'est une des régions, avec le Québec, c'est les deux régions les plus riches en termes de sièges, puis là où c'est le plus serré, où les libéraux. Fait que c'était pas une bonne nouvelle hier.
Non.
Ça dure juste 24 heures. Tu vas me dire qu'il reste encore 38 jours. Mais faut pas que t'en perdes trop souvent. Puis la date, il est 0-2.
Oui, absolument. Éric, hier, j'avoue avoir été surprise. Là, premièrement, on va parler du magazine Urbania. Tu vas nous présenter peut-être pour les gens de la Mauricie qui connaissent peut-être pas le magazine. J'ai bien lu, tu écris maintenant une chronique dans le Urbania. Je pensais que c'était de gauche et sur le plateau, moi, cette affaire-là.
Mais oui, c'est sûr que c'est ça.
Qu'est-ce que tu fais là, Éric?
Moi, j'ai présenté ça comme une revue bobo, hipster, ucamienne, solidaire du plateau Mont-Royal. Puis c'est un peu ça. Et c'est un peu. Écoute, ça a commencé bizarre. C'est que j'ai reçu le fondateur puis l'éditeur d'Urbania, Philippe Lamar, en entrevue parce qu'il était venu à l'Assemblée nationale ici à Québec dans le cadre de la crise des médias puis la commission parlementaire qu'il y a eu là-dessus, là, suite à l'annonce de ce qui se passe avec le groupe Capital Média. Lui, il disait que la culture québécoise allait disparaître si le gouvernement intervenait pas, puis ça. Fait que je l'ai reçu pour jaser de ça. Et dans l'entrevue, j'ai dit, ben, tu sais, on parle de diversité d'opinion qui est menacée, mais je m'excuse, mais autant le soleil que votre média, ils n'envoient pas des chroniqueurs de droite. Fait que la diversité, de quoi vous parlez? Je veux dire, vous pensez tout pareil, vous habitez tout le même coin, vous avez tout le même moule. Je vois pas ce qui est menacé présentement en termes de diversité pour le lecteur. Et là, il m'a dit, ben, écoute, je t'invite à venir écrire dans nos pages.
Ah ouais?
C'était parce que moi je pense que c'est une bonne idée d'avoir le dialogue. Puis tu sais, là, j'avais l'air fou. Tu peux pas critiquer le monde puis dire qu'ils sont des gauchistes finis puis qu'ils n'ont pas de conducteur de droite. Puis quand t'es invité, tu dis ben non, je vais me défiler.
T'as raison.
Fait que j'ai dit ok, je vais y aller. Fait que je l'ai rencontré la fin de semaine passée, puis j'ai dit ok, on y va. Et j'ai signé hier ma première chronique, mais il faut que je t'avoue quelque chose. Puis je sais pas si j'étais. je m'en attendais un peu, mais je pensais pas que ça allait être aussi fort.
Ouais.
Mais il a vanté fort hier.
Ah oui?
Beaucoup, beaucoup de critiques des lecteurs d'Urbania, évidemment, des gens qui ont une sensibilité très à gauche.
Ouais.
Ça m'interpelle parce que je me dis, est-ce qu'on peut encore se parler entre gens qui pensent différemment au Québec?
Ouais.
C'est une grosse réflexion, Catherine, là, mais on pense tout le temps qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est plus ouvert sur toute la planète, puis qu'on a élargi nos horizons. Mais des fois, je me demande si on les a pas ratatinés, en fait, parce qu'on se parle juste entre monde qui pense pareil. Peut-être
ouais.
que géographiquement, on les a élargis, mais idéologiquement, je pense qu'on les a ratatinés. Et c'est parce que les algorithmes, tout ça, puis nos amis, puis à force de liker le même genre de trucs, on finit qu'on se ramasse tous entre gens qui ont des affinités idéologiques très, très fortes.
Ouais.
Puis ça fait en sorte que notre monde, il est restreint, puis on n'est plus ouvert à échanger puis à dialoguer. Et j'ai peur que ça soit en train de se produire. Puis hier, je l'ai vu, là. Tu sais, c'est un scandale qu'un média embauche quelqu'un qui pense pas comme toi puis qui a une diversité
ouais.
d'opinion dans ses pages.
Ouais, c'est désolant qu'on en soit là parce que c'est encore le fun, c'est encore beau le débat, puis il est nécessaire. Puis quand on n'est pas d'accord, ça se peut que tes arguments, ils valent autant que les miens, mais on peut avoir des opinions différentes. Puis justement, moi, je pense qu'on fait bien plus avancer le débat. Pas nécessairement quand on n'est pas d'accord. Si on l'est, tant mieux. Mais il faut que ça demeure, Éric, sinon on s'en va où?
Ben oui. Mais toi puis moi, Catherine, on est un peu pareil. On est dans le même moule. Pas idéologiquement, mais dans le sens où on aime débattre.
Ben oui.
On aime l'échange. Puis le but, c'est pas de gagner. Le but, là, c'est de faire réfléchir le monde qui nous écoute.
C'est ça.
Et toi, tu reçois plein de monde qui pense comme toi, mais t'en reçois autant, sinon plus, qui pense pas comme toi pendant tout.
Tout à fait.
Puis à la limite, c'est pas important. C'est même pas un critère pour toi quand t'invites quelqu'un.
Non.
Donc, ça devrait être comme ça. Puis, ultimement, là, t'as pas d'affaire à vouloir gagner des débats. Ce que tu veux, là, c'est que tes auditeurs gagnent. Le vrai gagnant, là,
voilà.
Ce qui est important, c'est celui ou celle qui nous écoute dans son char à matin, là.
Ouais.
Et pour ça, pour que lui se fasse une tête, ben, il faut qu'il en entende le plus de diversité d'opinion possible.
Ouais. T'as bien raison.
Mais malheureusement, c'est de plus en plus difficile. Puis, on l'a vu dans plein d'affaires, là. Quand c'est rendu, tu te fais dire que tu peux plus faire une pièce de théâtre, là, avec des chants d'esclaves noirs, ou que tu peux plus parler des Autochtones parce que t'es pas Autochtone, ou que tu peux plus. On vit dans un drôle de monde, là.
Ouais.
C'est pas un progrès au niveau démocratique, au niveau de la liberté d'expression.
J'espère que tu vas continuer d'écrire dans Urbania. En tout cas, je te le souhaite. Je trouve ça bien le fun. Ça...
Bon, mais le président, l'éditeur, il a l'air déterminé.
Bon, parfait.
Sa gang est assez dédiée. Merci. Là.
OK, bon, c'est correct. Hey, Éric, c'était bien le fun de t'avoir avec nous cette semaine.
Plaisir partagé.
OK, à bientôt. Salut.
Merci.
Bye-bye. Éric Duhem, notre collègue du FM 93 à Québec. Savez-vous ce que j'aime? Et c'est exactement en lien avec ce qu'Éric vient de dire. Parfois, on n'est pas d'accord. Et vous savez, dans ce créneau-là, que ce soit François Vigean, vous nous entendez, parfois on débat ensemble. François nous amène ailleurs. On a des idées, une idéologie qui est différente sur des points, sur des sujets X. Éric Duhem, vous le connaissez, Éric est plus de droite, puis s'assume. Patrick Lagacé, quand Patrick est avec nous, Patrick, c'est un gars davantage de gauche. Puis il n'est pas moins bon ou meilleur ou... Puis oui, des fois, on échange, on n'est pas d'accord, notamment sur la laïcité. Je l'ai fait avec Richard Lachance cette semaine. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous amener des chroniqueurs avec des idéologies différentes. On s'entend que Patrick Lagacé et Éric Duhem sont assez à l'opposé, et c'est la beauté de la chose. La journée où dans cette émission, on ne vous proposera plus ça, vous permettre de vous faire une idée, puis votre idée n'est pas moins bonne que la mienne. On a parfois juste une façon de voir différente. C'est ça aussi faire de la radio d'opinion.